toutes les énergies du sport nous rassemblent. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
C'est maintenant, bonsoir à tous, l'After Tour, votre rendez-vous avec toute l'équipe de l'Intégral Tour à l'issue de cette deuxième étape du Tour de France, remportée donc une nouvelle fois par un Français comme hier, après Romain Bardet, c'est Kevin Vauclin qui s'est imposé aujourd'hui. Nous allons évidemment revenir sur le triomphe de ce jeune coureur normand de 23 ans qui dispute son premier Tour de France et qui dès la deuxième étape a mis au fond, c'est fantastique, et notamment pour son équipe, la formation Arkea B&B Hotel. Équipe bretonne qui décroche là aussi son premier succès sur les routes du Tour. Équipe qui est déjà engagée depuis de nombreuses années et qui réalise là un véritable pas hold-up, parce que c'est pas du tout un hold-up, mais qui réalise un gros coup. On va évidemment revenir sur la victoire de Vauclin, sur la victoire d'Arkea, mais aussi sur ce qui s'est passé pour le classement général avec la première attaque de Tadej Pogacar, à laquelle a répondu un certain Jonas Vingegaard. Les deux géants des 4 précédents tours sont là en pleine forme, évidemment, pour nous régaler durant 3 semaines. Tadej Pogacar qui s'est emparé du maillot jaune ce soir aux dépens de Romain Bardet. Et oui, qui a vécu une magnifique journée, mais qui a dû laisser sa belle tunique dorée pour la laisser donc à Tadej Pogacar. Nous verrons un peu ce qu'il en est des principaux leaders de ce Tour de France. Toute la bande de l'After est à mes côtés. Cyril Guimard, Jérôme Coppel, Pierre-Yves Leroux, Arnaud Souk.
Bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir, salut, bonsoir.
Comment allez-vous ?
Magnifiquement bien.
Magnifique.
Tellement facile de l'émotion, le vélo pour les Français.
Même s'il n'y a pas eu de pleurs aujourd'hui de la part de Cyril. Hein ? Il est resté...
C'est l'habitude maintenant.
Ouais, maintenant
c'est l'habitude.
Voilà. Trop de victoires françaises.
Voilà, jamais 203, vivement demain.
Ouais. On verra ça. Ça va Cyril ?
Oui, très bien.
T'as,
oui.
T'as l'air tout chiffonné.
Bah, ouais,
t'as pas l'air en forme.
Bah oui, non, mais j'ai peur de... J'ai peur quand, de la tu, suite. Quand tu commences à aller sur des sujets qui pourraient m'émotionner.
Voilà donc la victoire de Kevin Vauclin. On l'a vécu en direct tout à l'heure sur RMC dans l'Intégral Tour. On y revient parce que c'était magnifique.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Bonjour à tous et bienvenue sur la route du Tour de France, la deuxième étape aujourd'hui de la grande boucle. Nous sommes toujours en Italie, toujours au bord de l'Adriatique. Le peloton s'était lancé il y a une vingtaine de minutes maintenant de Cesenatico, le village de Marco Pantani. Évidemment, tout le monde a une pensée pour le pirate qui est très présent dans les esprits. Mais tout le monde aussi a une pensée, et plus qu'une pensée, pour le nouveau maillot jaune de ce Tour de France, Romain Bardet, qui a réalisé un numéro exceptionnel hier.
Le problème, l'attaque d'Axel Laurence à l'avant. Axel Laurence qui place une première attaque violente alors que tout le groupe s'était reformé, et le Français de l'équipe Alpecin qui est en train d'essayer de faire le ménage, faire la lessive. Il reste 900 mètres encore dans cette côte de San Luca. Derrière il y a Vauclin qui s'accroche. Vauclin est au-dessus Kevin Vauclin, il est en train de lâcher Abraham Sen et Nelson Oliveira, le Portugais qui est en difficulté là, on le sent. Et Vauclin, lui, il est parti dans un effort et il semble facile. Jérôme Vauclin, pour le moment, il a déjà mis 15 mètres à Abraham Sen et 20 à Nelson Oliveira.
Abraham Sen qui craque complètement, Vauclin qui s'envole désormais, qui s'envole peut-être vers une deuxième victoire française en 2 jours, ce serait tout simplement incroyable.
Alors qu'il reste quelques centaines de mètres dans cette côte de San Luca, ça y est, c'est parti pour la bagarre entre les deux, celle qu'on attendait entre Pogacar et Vingegaard. Nous voilà revenus dans les plus belles heures du Tour de France, dans la lutte entre les deux frères ennemis, et Pogacar qui a placé cette attaque. Il n'y a que Vingegaard qui a réussi à lâcher, alors qu'auparavant déjà Roglic avait été lâché, il n'était plus que 7-8, et Pogacar qui en remet une petite, il va même coller la moto, et déjà la moto qui était un petit peu trop près. Vingegaard est bien là, en tout cas il est dans la roue pour l'instant, il prouve qu'il est revenu à son meilleur niveau. Mais ce n'est que la deuxième étape du Tour, devant à 10 km de l'arrivée, Kevin Vauclin lui a 48 secondes d'avance sur les poursuivants et va peut-être aller chercher une deuxième victoire française.
RMC, la flamme rouge.
Ah, c'est magnifique. Toute la Normandie est en joie, évidemment. Hier, c'était du côté de Brioude qu'on se réjouissait. Et cette fois, c'est pour Kevin Vauclin, le Normand, qui ne lâche pas. Et pourtant, je pense qu'il peut profiter. Il est plus qu'à 600 mètres de la ligne. Une deuxième victoire française qui se dessine. Assez incroyable. Les leaders des équipes qui gagnent. Hier, c'était la DSM. Aujourd'hui, c'est l'équipe Arkea. Première victoire aussi pour les hommes de Manu Hubert sur ce Tour de France. Kevin Vauclin qui se retourne. Il peut se relever. Et oui, il peut faire signe au tifosi. Allez-y, applaudissez-moi. Il y a de la joie. Il y a de la joie dans les cœurs. La Normandie est en fête. Kevin Vauclin va s'imposer. Levez les bras en Italie. Quel bonheur, quelle joie. Les Français sont en forme, en très grande forme. La victoire de Vauclin qui serre les points, qui fait signe à la foule ici et qui passe la ligne. Victoire française une nouvelle fois, victoire de Vauclin.
RMC jusqu'à 20h,
l'After Tour.
Voilà, quel bonheur nous procurent les Français depuis le début de ce Tour de France. Hier, on avait vibré pour Romain Bardet. Aujourd'hui, nous avons donc vibré pour Kevin Vauclin, 23 ans à peine, premier Tour de France, à la différence de Romain Bardet qui lui dispute son dernier tour et qui a 10 ans de plus. C'est la preuve que les Français ont du talent dans toutes les générations, même si on était un peu inquiet avant le début de ce Tour de France, inquiet notamment pour le classement général. Mais on l'a vu, les Français sont capables de réaliser des coups et ils l'ont fait deux jours de suite, deux succès en deux jours. Messieurs, est-ce que vous avez souvenir d'un aussi beau début de Tour de France pour les couleurs françaises? On évoquait tout à l'heure avec Cyril 1961, là où il y avait eu trois victoires françaises lors des trois premiers jours, mais c'était une autre époque. Il n'y avait pas autant de nations évidemment représentées dans le peloton. On évoquait aussi le 1979, le succès de la formation de Cyril Guimard, dont il était le patron, la formation Renault. Mais Cyril, ça fait des siècles, voire des millénaires qu'on n'avait pas eu un début de Tour de France de la sorte pour les Français.
Oui, c'est vrai, depuis de nombreuses années, on n'avait pas la capacité d'aller s'imposer comme les Français l'ont fait sur ces deux premières étapes. On n'avait pas non plus véritablement les talents, peut-être, pour réaliser ce genre d'exploit. Le cyclisme français, on peut le dire, depuis deux ou trois ans, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se passer au niveau des jeunes, même s'ils ne performent pas sur le Tour, tout du moins sur ces premiers jours, comme Lenny Martinez ou Romain Grégoire, mais il y en a d'autres. Et parmi ces autres, eh bien, il y a Vauclin, qui est un tout petit peu plus âgé, puisque, tu le rappelais, il a 23 ans. Mais on savait qu'un jour ou l'autre, il arriverait aussi. Et puis, l'expérience et le changement un petit peu d'état d'esprit ou de la façon de voir les choses de Romain Bardet, eh bien, ça a fait deux victoires, un maillot jaune. Et ça n'est pas... Il ne faut pas mésestimer ces victoires, parce qu'elles ont toujours un intérêt, c'est de créer l'émulation et d'un seul coup, peut-être, de décomplexer les Français, surtout sur les grands tours. Alors, on a été bon depuis le début de saison, c'est vrai. On a été bon sur des courses qui n'étaient pas obligatoirement des World Tours, quelques-unes. Et encore, c'était des étapes dans des World Tours. Mais les Français doivent être pratiquement à plus de 25 victoires depuis le début de l'année.
Dont une grande partie pour la formation Decathlon AG2R, qui n'a pas encore mis au fond dans ce Tour de France, mais qui a brillé tout au long de la saison.
Je pense qu'ils vont finir par y arriver. Mais ça veut dire que plus on gagne, plus on a envie de gagner, plus on crée de l'émulation. Et dans cette émulation, il y a autre chose. Alors, il y a des termes qu'il ne faut jamais utiliser parce que c'est la période aujourd'hui. Il y a aussi de la jalousie. Cette jalousie qui dit « mais pourquoi lui et pas moi ?» Mais peut-être qu'utiliser le mot jalousie, ce n'est pas beau, mais ça fait partie de la réalité des choses. Et puis, cette solidarité qu'on a entendue ce soir de Grégoire par rapport...
on réécoutera ça tout à l'heure, Romain Bardet qui remercie Romain Grégoire.
Et qui fait aussi partie des choses importantes.
Jérôme, tu le disais hier soir, c'est vrai que cette première victoire hier de Bardet fait que la pression qu'avaient les Français sur les épaules au début de ce Tour de France s'est envolée, qui plus est avec un deuxième succès. Là, toi, tu nous parlais de 3 ou 4 succès pour les Français.
Je suis toujours dans le tableau de marche, mais pourquoi 3 ou 4 succès? Vous avez un peu rigolé, parce qu'on ne joue plus le classement général, justement. Du coup, on n'a que des coureurs qui vont, à l'image de Kevin Vauclin aujourd'hui, partir dans les échappées et essayer de gagner des étapes. Et puis Kevin Vauclin, hier, il n'était pas bien, il prend 29 minutes comme David Gaudu et le lendemain il est capable de gagner une étape. Donc ça donne aussi
pas été
des...
le cas de David Gaudu.
Bien sûr, mais le tour est encore long, donc ça donne des espoirs à ceux qui n'étaient pas bien les premiers jours. On en a déjà parlé, mais la chaleur, tout de suite une première étape ultra difficile, donc on peut avoir un début de tour compliqué, mais après enchaîner très bien. Voilà, deux premières étapes, deux victoires françaises, et puis voilà, comme a dit Cyril, la manière dont Romain a gagné hier, bah, ça donne des idées aux autres. On avait déjà une victoire d'étape, un maillot jaune. Là, en plus, c'est un jeune coureur qui découvre le tour, qui gagne sa première étape. Bah, là, ça va donner des idées aux autres jeunes coureurs qui découvrent le tour. Ils vont dire, moi aussi, je suis capable de le faire si lui est capable de le faire. Donc maintenant, je pense qu'on va voir encore plus de Français partir à l'avant.
Et on pense notamment, pourquoi pas, Lenny Martinez, Romain Grégoire, qui pourront jouer aussi leur rôle. Axel Laurence aussi, qui était dans le coup aujourd'hui. Il y en avait quand même un paquet. Quentin Paché est lui plus âgé. Mais il y avait, on était quand même super bien représentés, Arnaud, dans cette échappée. 4 Français sur les 10. Et une nouvelle fois, l'échappée qui va au bout.
Oui, et puis ils ont été actifs. Ils ont été particulièrement actifs, les Français. On rappelle, hein, Axel Laurence qui a placé la première banderie dans la côte de San Luca.
La première ascension.
Dans la première ascension, oui. Finalement Quentin Paché qui termine 3e. On avait senti quand même que Kevin Vauclin potentiellement pouvait lui aussi avoir son mot à dire. Donc non franchement super opération. Après je voudrais juste tempérer un tout petit peu malgré tout. Aujourd'hui ça gagne devant parce que derrière ça s'est un petit peu observé. Et je pense que hier aussi ça a gagné devant parce que derrière il n'y a peut-être pas tout qui a été mis en œuvre pour empêcher de gagner devant. C'est, je dévalue pas du tout hein, c'est pas ce que je veux dire.
Il faut provoquer la réussite.
Je suis d'accord. C'est quand même rare que sur une deuxième étape du tour, on laisse 9 minutes d'avance à une échappée.
Oui, et puis c'est rare que les deux premières étapes du tour aient déjà deux échappées qui vont au bout. Voilà. Finalement, ça arrive. Aussi, d'habitude, c'est en deuxième semaine,
c'est pas une
voire
critique,
en troisième
c'est juste,
semaine.
Voilà, je tempère juste parce qu'on s'attendait quand même à une lutte pour le classement général.
Oui, mais
elle a eu lieu
souvent, lorsque les échappées vont au bout, même s'il y a des Français, c'est jamais les Français qui mettaient au front aussi. Donc là,
non, c'est génial.
Effectivement,
franchement, c'est génial.
Je suis d'accord avec toi.
Et puis, disons-le, c'est génial pour Arkea BNB parce que cette équipe quand même ça faisait 10 ans qu'elle courait après une première victoire sur le Tour de France, c'est sa première victoire World Tour de la saison en plus. Bon voilà, il se trouve qu'en plus c'est vraiment un garçon qui fait partie du projet de Manu Hubert. Il l'a couvé, Manu Hubert, en plus d'avoir couvé Kevin Vauclin, il est très proche de toute la famille hein. il est très proche notamment du papa de Kevin Vauclin, Manu Hubert qui est donc le manager général de l'équipe Arkea BNB. Donc voilà, c'est vraiment aussi une victoire, la victoire de la patience quelque part pour cette équipe, donc saluons-le.
Kevin Vauclin donc fou de joie, sitôt la ligne d'arrivée, on a entendu le commentaire de Pierre-Yves qui nous le décrivait comme ça, en train de se frapper le torse, en train d'écarter les bras. C'est vrai que c'est un bonheur total quand tu es un jeune coureur comme ça de remporter une étape du Tour de France. On écoute sa réaction sitôt la ligne d'arrivée franchie.
C'est complètement dingue. Hier, j'étais au fond du saut. J'ai passé des semaines, comme j'ai dit, difficiles avec des déceptions. Même si j'avais à mon niveau au championnat de France, autour de Suisse, j'étais pas bien, ou c'est la team non plus. Et réussir à faire ça, bon, c'est un échappé, mais je suis vraiment content. On a eu la journée parfaite. On a vu que le peloton nous laissait partir. Je pense que c'est grâce à l'échappé qui a pas été reprise hier. Ils ont dit, on peut laisser encore une échappée. Je pense que c'était la journée parfaite.
Journée parfaite donc pour Kevin Vauclin, un garçon que le grand public a découvert cette année parce que ses résultats ont été vraiment exceptionnels, notamment en début de saison. Pierre-Yves, alors parle-nous un peu de ce garçon qu'on découvre vraiment, en tous les cas que le grand public découvre vraiment aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que cette année il y a eu Bessèche, il y a eu les chronos de Tirreno du Tour du Pays Basque, mais l'enfant prodige de Tilly-sur-Seule près de Bayeux est seulement âgé de 14 ans quand un entraîneur du club le repère et l'emmène sur la piste et la route. 3 ans plus tard, le Normand devient champion du monde sur piste par équipe. Le futur champion part pour le pôle régional à Caen, puis au pôle France pendant 5 ans et intègre l'équipe de France sur piste. Maillot de champion de France espoir et amateur du contre-la-montre, Vauclin entre ensuite dans le monde professionnel avec le maillot Arkea il y a 2 ans seulement. La première année est plutôt bonne avec 10 podiums en 2022, puis une première victoire chez les pros en février 2023 sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. La suite elle est un petit peu plus compliquée parce qu'il y a une chute sur le Tour des Pays de la Loire qui finalement n'est pas décelé et puis il continue à courir. En fait ça se passe plutôt pas bien, il ne comprend pas ce qui se passe et en fait il fait des radeaux. Il y a 3 fractures dans le dos avec un gros œdème sur 6 vertèbres et donc il développe une tendinopathie au psoas. Il est obligé de s'arrêter pendant 2 mois et puis il revient, mais sur la première étape du Tour de Pologne, nouvelle chute, et puis lors du chrono par équipe inaugurale de la Vuelta, il rechute sous la pluie et il explique: j'avais peur en peloton, j'avais peur sur le mouillé, j'avais peur en descente, j'ai eu un vrai blocage et c'est pour ça que j'ai fait appel à un préparateur mental avec qui il travaille désormais. Et maintenant, ça va mieux. Il y a eu une deuxième place sur la Flèche Wallonne, également en avril dernier, pendant tout ce début de saison 2024. Et puis, il y a 10 jours, on l'avait vu fondre en larmes en Normandie en voyant le maillot de champion de France du chrono s'envoler pour 3 petites secondes dans les mains de Bruno Armirail. Cette fois, sur les routes italiennes, eh bien, il n'y a pas eu de larmes, ou alors c'était de la joie.
Mm-hmm. Arnaud, tu voulais ajouter
je rajouterai
au championnat de France,
à tout ça. Oui, alors championnat de France, effectivement. Donc, oui,
qui c'est se déroulait en Normandie, quasiment chez lui.
Qui
hein.
se déroulait, oui, carrément.
5 km de chez lui. Ouais.
Voilà. Juste un mot là-dessus, c'est que Kevin Vauclin, le grand public peut-être le découvre, mais il avait depuis un long moment tapé dans l'œil du sélectionneur. Aujourd'hui, il fait quand même partie d'une très short list pour être dans la sélection française pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que, en gros, on estime que c'est fait pour Julien Alaphilippe et c'est fait pour Benoît Cosnefroy. Derrière, il reste potentiellement deux place. Kevin Vauclin étant un excellent rouleur et le rouleur, enfin celui qui sera aligné sur le chrono sera également un des 4 garçons sélectionnés.
Oui, c'est ça.
Voilà, ça sera soit lui, soit Armirail en gros. Et là aujourd'hui, il marque des points et clairement Thomas Vauclair, c'est pas pour rien.
Oui, mais
il donnera sa sélection lundi prochain.
Rappelle-toi aussi ce qu'a dit Thomas. On peut pas faire le Tour de France à bloc et être bon.
C'était
pour
dans le cas de Julien Alaphilippe.
Ouais.
C'était dans le cas de Julien Alaphilippe parce que tous les autres garçons qui sont dans la shortlist sont des garçons qui font le Tour de France.
Et ouais. Après, s'il veut un bon rouleur au JO, il a pas vraiment le choix. Armirail et Vauclin, ils sont tous les deux sur le tour. Donc, parce que derrière, c'est quand même un petit ton en dessous de ces deux-là. Donc, s'il veut vraiment un coureur qui va faire un peu plus, entre guillemets, le rôle d'équipier sur la course en ligne et être capable de performer sur le chrono, bah, ça va jouer entre Vauclin et Armirail. Ils sont tous les deux ici.
Cyril, si tu étais sélectionneur, je ne sais pas, c'est un métier que tu n'as jamais connu, tu choisirais lequel pour participer aux Jeux Olympiques? Il faut peut-être encore un peu attendre dans ce Tour de France?
Oui, je pense qu'il faut encore attendre. Il peut se passer beaucoup de choses. Hein. D'autre part, il y a un sélectionneur qui s'appelle Vauclair et il y a 60 millions d'autres sélectionneurs qui sont les Français.
Oui.
Je ne vais pas en rajouter un.
Ouais, tu vas pas en rajouter un parce que tu n'aimais pas quand on te dictait ta sélection à l'époque où tu étais sélectionneur.
Mais personne ne me l'a dicté.
Non,
pas
mais tu te donnais des conseils. Tu disais, bah, tiens, il faut.
Non, mais quand j'ai besoin de conseils, je vais aller chercher. On n'a pas besoin de.
Tu demandes à Jérôme et à Pierre.
Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Je vais voir Arnaud, il va tout m'expliquer.
Kevin Vauclin, donc garçon coureur complet, hein, bon grimpeur, on l'a vu avec cette échappée dans la côte de Saint-Lucas, et excellent rouleur, ce qui est quand même assez rare. Depuis Jérôme Coppel, je crois qu'on n'avait pas eu un aussi bon rouleur dans le peloton français. C'est assez rare parce qu'on ne travaille pas beaucoup le chrono, malheureusement.
Oui, alors on le travaille de plus en plus hein, quand même. Ce n'est pas comme il y a une dizaine d'années, mais c'est vrai que Kevin Vauclin, on l'a dit, Pierre-Yves l'a dit, il fait 2e du championnat de France, mais il gagne le contre-la-montre de Bessèges qui arrive en haut d'une bonne bosse. Alors, peut-être, tu l'as dit, un coureur complet à voir encore dans les grandes étapes de montagne, quand il y a des grandes ascensions qui vont s'enchaîner. La bosse comme aujourd'hui, c'est un peu comme la Flèche Wallonne, c'est vraiment des bosses de puncher. Le chrono de l'étoile de Bessèges qui arrive en bosse, c'est aussi une bosse très courte et très très raide. Donc, excellent puncher, excellent rouleur. On attend de voir dans les grandes étapes de montagne comment il enchaîne les cols de 10, 15, 20 km pour voir s'il peut devenir un coureur du classement général. Moi, je ne lui souhaite pas de faire ça tout de suite. D'abord, de se mettre sur des courses d'une semaine, qui fait déjà très bien. Il a fait dans le top 10 de Tirreno et du Pays Basque. Mais d'abord, de s'aguerrir sur des courses d'une semaine avant d'aller viser un classement général sur une course de 3 semaines. Et avant d'arriver sur le général des courses de 3 semaines, faire comme il fait là, prendre des cartons et viser des étapes. Voilà, ça, c'est vraiment le conseil que je peux lui donner, de ne pas venir tout de suite sur un classement général d'un grand tour.
Et tu as oublié de rappeler qu'il rate le général du Bessèges pour 10 secondes.
2 secondes.
2 secondes, alors que toi, tu l'as gagné 2 fois. C'est ça que tu voulais dire.
Oui, c'est 2012, quand même 2016. Hyper facile de gagner une étape du tour, mais gagner Bessèges, c'est quand même autre chose.
Il n'est pas encore au niveau de Jérôme Coppel.
Magnifique, donc Kevin Vauclin, on ne va pas s'emballer, on ne va pas tout de suite en faire un coureur de classement général sur les courses de 3 semaines. Bon, en tous les cas, il nous permet de garder le sourire ce soir, parce qu'il y a eu évidemment une déception puisque Romain Bardet a perdu son maillot jaune. On y reviendra tout à l'heure. La nouvelle génération française est au top. Cyril en parlait. Axel Laurence, Kevin Vauclin, Romain Grégoire, Lenny Martinez.
Ouais, Paul Magnier en sprinter.
Paul Magnier,
en fait, on en a dans tous les registres.
Chez Soudal, hein.
Ouais, on en a dans tous les registres.
Penouette aussi.
Voilà, on a Paul Magnier, Penouette côté sprinter, Lapera, Grégoire un peu plus puncher, on va dire. Lenny Martinez grimpeur, Vauclin, on l'a dit. dit, un peu complet. Et puis, on a un jeune aussi qui passe un peu inaperçu pour l'instant, mais qui est très, très jeune. C'est Alexis Fort-Pros, qui est chez Intermarché Wanty, qui est l'ancien champion de France Espoir. Il a signé 3 ans là-bas. Il le couvre gentiment pour l'amener au plus haut niveau, donc à voir. Et puis, on a surtout une grosse, grosse pépite qui arrive bientôt, qui s'appelle Paul Sexas, qui est déjà
chez Decathlon, voilà, âgé de 2 ans, mais qui est junior encore, c'est ça.
Qui est junior, 17 ans, mais très, très
gros. Il paraît qu'il gagne tout. Voilà. Lui, ouais.
Bon. Chez Arkea, on a aussi Costiou.
Exactement.
Et, ouais, exactement.
Et Mathis Rondel également.
Oui, oui. Voilà. Après, on peut faire une très longue liste.
Qui est chez Tudor, c'est ça.
Qui est en train de passer professionnel. Je crois que son contrat vient tout juste d'être signé. Et lui, c'est un sacré. Pour en avoir discuté récemment avec son directeur sportif, c'est un sacré garçon d'avenir.
Oui, oui. Et puis voilà, on en a beaucoup et dans plein de registres différents. Donc ça, c'est quand même très bon pour le futur du cyclisme français.
Voilà, des bonnes nouvelles. On en veut comme ça tous les jours. Voilà, il y a quelques jours, on se dit, oh là là, est-ce que les Français vont remporter une étape? Est-ce qu'il y aura un Français dans le top 10? Ça, c'est pas sûr qu'il y en ait un dans le top 10. Mais en tous les cas, on a déjà 2 victoires d'étape et un maillot jaune qui n'aura duré...
On va pas se plaindre.
Non, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre de voir commencer aussi bien. C'est magnifique. Kevin Vauclin, tu le disais, Arnaud, qui permet également à la formation Arkea BNB Hotel de décrocher son premier succès sur les routes du Tour. La petite formation en Bretagne continue de grandir. Écoutez l'émotion tout à l'heure de Didier Rousse, qui est le patron des directeurs sportifs de la formation manager de cette équipe Arkea. Il avait des larmes dans les yeux, Didier Rousse. Rouston pour les intimes.
Quand on gagne, on est ému. Et je le suis encore. Parce qu'en fait, on vit ce qu'on fait, quoi. Et on a envie de transmettre. Voilà. Donc l'émotion, oui, il y en a. Je ne sais pas si on peut appeler ça une transmission. Hier, Bardet gagne, il prend le maillot. Aujourd'hui, Kevin gagne. On n'est pas dans la même équipe. On reste français. L'essentiel, c'est que les Français font un beau début de tour. Et moi, ce que je vais retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre première victoire pour Arkea BNB. Et ça, c'est l'essentiel, quoi.
Important, Cyril, pour une jeune formation qui n'a pas du tout les mêmes moyens que les grosses équipes qui sont alignées à côté d'elle sur le Tour de France, de remporter une étape, c'est le jackpot, en quelque sorte.
C'est le jackpot, c'est évident. Après, il faut quand même, et Arnaud le soulignait tout à l'heure, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop s'enflammer ou s'enflammer de façon non rationnelle, je veux dire. On a eu des circonstances de course. D'abord, 2 étapes avec des parcours particuliers qu'on n'a pas l'habitude de voir, d'avoir sur les grands tours, en règle générale. Des stratégies de course par rapport aux deux monstres qui sont sur ce tour, Pogacar et Vingegaard, qui fait qu'il faut savoir à un moment aller chercher les opportunités. Alors, pour trouver les opportunités, comme le disait notre maillot jaune, Bardet.
Robin Bardet,
voilà. Hier, j'ai couru à l'instinct. Ça a rigolé pour quelques petites secondes. Aujourd'hui, on pensait qu'il allait avoir de la bagarre, un coup part, et d'un seul coup, ça fait rideau, ça prend 9 minutes, et voire 10 minutes. Mais seulement, il faut avoir les capacités ensuite d'aller chercher la gagne. C'est-à-dire qu'il faut ne pas avoir peur de perdre, même si vous faites des erreurs, peu importe. Mais ça finit par rigoler. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est ça qu'il faut souligner aujourd'hui. C'est la capacité à courir avec de l'instinct, et la capacité à sentir le bon moment où il faut faire l'effort pour aller à la gagne.
Tu as plus de chances de gagner si tu es devant. Je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas la chute de Lorenz de Plus, de Jorgensen, le peloton revient. Ils étaient dans une dynamique où l'écart était en train de se resserrer terriblement. Et
on
puis
était
ça remonte
qu'à
5 à 10 minutes.
Ouais. Et c'est remonté à 9.
Ouais, presque 10 même. 4,
ouais. Ouais. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette chute, à mon avis, Vauclin n'est pas vainqueur de l'étape aujourd'hui.
De toute façon, si tu t'appelles pas Pogacar, Vingegaard ou Van der Poel, si t'as pas un peu de bol dans le vélo, tu gagnes jamais. Hein.
Non, mais c'est ça. Si tu provoques pas la chance, tu y arriveras jamais.
Mais pour ça, il faut être devant.
Il faut être dans les étapes.
Là où on y va. Voilà. Et on y va sur des vrais coups, pas des échappées comme
publicitaires
à certains
moments. Comme on aura demain.
Comme on aura sans doute demain. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut de l'intelligence en course.
Pour répondre à ta question, Christophe, pour une équipe comme Arkea BNB, c'est énorme de gagner une étape sur le Tour de France. On a parlé avec Pierre-Yves Leroux, avec le manager.
Pas tellement en termes financiers, hein, c'est pas
non,
les
pour
primes.
Le sponsor. Non, mais, non, oui, pas financier, voilà, pour le sponsor. On a parlé avec Vincent Lavenue à la présentation des équipes, le manager de Decathlon à G2R La Mondiale, qui font un début de saison incroyable. Il a dit, de toute façon, tout va se jouer sur ces trois semaines. Donc, s'ils font rien sur le Tour, le résultat de la saison de l'équipe Decathlon à G2R, ça sera une année moyenne. On aura oublié ce qu'ils ont fait avant. J'ai connu ça chez Source Jason, petite équipe invitée au Tour, on avait fait un super début d'année, on est passé au travers du Tour, c'était une mauvaise année. Donc une équipe comme Arkea BNB, c'est énorme en termes de retombées pour le sponsor.
Je me rappelle ce qu'avait dit David Gaudu avant le Dauphiné, il avait dit oui, ça sert à rien de briller dans le Dauphiné.
Ah oui, c'est sûr.
Le plus important,
oui.
C'est de briller dans le Tour de France.
Briller sur le Tour de France, oui. Bon ben bah, oui, non, Groupama FDJ, clairement, pour l'instant, c'est pas.
Même si Quentin Paché a été dans le coup encore.
Oui, et Valentin Madouas l'était hier. Hein. Juste pour revenir quand même sur Arkea.
Et que Romain Grégoire était cette fois dans le bon paquet. À l'arrivée.
Juste pour revenir sur Arkea, Manu Hubert, que j'ai pu voir tout à l'heure, donc le manager général de cette équipe, il disait, bon ben bah, nous, de toute manière, ça fait 10 ans qu'on est là, 10 ans qu'il y a 3-4 formations qui se partagent, en gros 15 victoires sur le Tour, et derrière, il faut savoir ramasser les miettes. Voilà, on a ramassé une miette, peut-être 2, peut-être 3 maintenant, on va voir, mais on a bien conscience du côté d'Arkea, de toute manière, du côté complètement exceptionnel. Voilà, Arkea va pas comme ça devenir une grande équipe du Tour de France. Mais voilà, en tout cas, on se satisfait de ramasser les miettes.
Il faudra déjà réussir à garder Vauclin quand il sera en fin de contrat, hein, parce que lui, il va attirer évidemment du beau monde.
Et Manu Hubert me disait également tout à l'heure, et je trouvais ça vraiment bien, et il le dit à Vauclin lui-même, que bah, le jour où Vauclin sentira que Manu Hubert ne peut plus rien lui apporter,
il le laissera partir.
Et voilà,
il
le laissera s'envoler sans aucun problème.
Ouais.
Je pense que la relation est. Je la connais pas, pour être très honnête. Je me fie à ce que m'a dit Manu Hubert et je me fie à ce que j'ai pu entendre à droite à gauche, mais je pense que la relation est vraiment une relation très très saine.
Voilà, donc Kevin Vauclin, vainqueur d'étape non pas maillot jaune, parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'était plus compliqué. Il était à plus de 29 minutes au classement général, donc il fait un petit rapproché, mais c'était pas ça l'essentiel, c'était d'aller décrocher cette victoire d'étape. En revanche, eh bien, la belle aventure en jaune de Romain Bardet n'aura duré qu'une journée. On se posait la question de savoir ce matin, dans les grandes gueules du sport, s'il allait rattraper l'aura de Alaphilippe, de Pinot, et je disais qu'il faudrait une épopée pour cela, parce que sa popularité n'est pas tout à fait la même, même si Cyril disait tout à l'heure aussi qu'il n'est peut-être pas à la recherche de cette popularité. Malheureusement, ça se termine un peu tôt, et pour pas grand-chose en plus, 6 petites secondes seulement, c'est assez frustrant. Tiens, on va écouter la réaction justement de Romain, qui a vécu une journée de rêve aujourd'hui sur les routes du Tour, mais un final un peu moins doré.
C'est dommage, et à la fois, je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus, donc c'est le destin. Très content pour Kevin Vauclin qui gagne. J'ai deux surtout mots pour les Français aujourd'hui. Que j'ai appris sur la ligne que Kevin a gagné, mais c'est la relève du cyclisme français, et surtout aussi Romain Grégoire derrière qui m'a aidé. Et quant à moi, je crois que j'ai fait une belle montée à mon niveau. J'avais des couteaux dans les jambes aujourd'hui, j'avais vraiment très mal aux jambes. Je me suis battu, l'équipe a fait un super boulot autour de moi. Et voilà, il n'y a pas de regret, j'ai passé une belle journée, et ce qui est pris est pris.
Ce qui est pris est pris, et effectivement, il aura à son palmarès porteur du maillot jaune sur les routes du Tour, ne serait-ce qu'une journée. C'est quand même déjà pas mal. On espérait quand même, Cyril, qu'il puisse conserver ce maillot jaune, mais on avait quand même des craintes. On savait que si la bagarre était déclenchée après les efforts consentis hier, il aurait du mal quand même à suivre le rythme de Poggi et de Vingegaard.
S'il y avait attaque, effectivement, de Pogacar... n'oublions pas que si ça s'était rejoint, il y avait aussi en plus les bonifications au sommet du San Luca. C'était quand même, oui, on espérait, on voulait continuer le rêve.
Ben oui, vous voulez te faire pleurer encore une fois.
Voilà, tout à fait. Mais il a fait un effort hier absolument énorme sur plus d'une heure. Donc.
Ça se paye,
Et ça, c'est logique que les jambes étaient un petit peu raides. Et je pense d'ailleurs que toute l'étape, il a été dans l'euphorie, on le voyait, puisqu'on ne l'a jamais autant vu à la télévision, d'ailleurs, puisque comme il avait le maillot jaune systématiquement, la moto venait le cadrer. Il a eu, et il le dit d'ailleurs, moi, j'ai souri toute la journée. Donc cette euphorie... fait que le mal aux jambes, bon, bah, on le sent un petit peu moins, sauf que quand il faut mettre 2 dents de plus dans le sens...
Dans cette côte terrible, en plus.
Là, il ne peut pas. Ouais. Il n'a pas les réserves nécessaires pour pouvoir le faire.
Le rêve est-il définitivement terminé pour Romain Bardet?
Alors, oui.
Bonne question.
Je voulais vous lancer là-dessus, effectivement, parce qu'il n'est qu'à 6 secondes. Alors, que va-t-il faire maintenant? Que doit-il faire? Est-ce qu'il faut qu'il essaye de récupérer ce maillot jaune? Alors, pas demain, mais pourquoi pas après-demain, se remettre dans une échappée? Ou doit-il rétrograder au classement pour avoir de nouveau des opportunités et des cartes, des bons de sortie? Qu'est-ce que vous en dites?
Il a expliqué déjà que son objectif premier, c'était d'aller chercher le maillot à poids. Donc, pour aller chercher le maillot à poids,
il va falloir marquer des points.
C'est pourquoi pas faire coup double sur le Galibier. C'est une montée d'une cinquantaine de minutes qui peut lui correspondre en partant dans l'échappée avec son camarade Abrahamsen, par exemple, qui sera sur le même objectif. Donc, ça peut être là pour tenter un coup double. Si ça ne marche pas, bon, là, ça en sera fini pour le maillot jaune. Mais derrière, il y aura d'autres opportunités pour le maillot à poids.
Tout dépend quel état d'esprit il va avoir à partir de demain. La question ne se pose pas. Mais à partir de la quatrième étape, est-ce qu'il va rester dans l'état d'esprit qu'il avait avant le départ et qu'il a exprimé de façon très, très libre et ouverte? Est-ce que le fait de se retrouver là où il est aujourd'hui, est-ce que je ne me raccroche pas au classement général? Tout du moins... Au moins la première grande étape de montagne, si ça coince, à ce moment-là, tu décroches et tu vas dans l'autobus et tu ressortiras après. Mais je ne suis pas certain que dans la position où il est au classement général, tout de suite, il décroche.
Ouais, déjà, d'une, est-ce qu'il aura un bon de sortie?
Oui.
Il est quand même proche, ça reste Romain Bardet, même si au départ du Tour, il était pas, il faisait pas peur à Pogacar et à Vingegaard. Je pense qu'il leur fait toujours pas peur, mais il fait peut-être peur à Carapaz, à Evenepoel et à ceux qui vont viser la troisième place, par exemple. Par contre, si j'étais lui et si j'avais dans l'idée de récupérer mon maillot jaune, je m'accrocherais un petit peu le plus possible dans le Galibier pour, pourquoi pas, le mercredi ou jeudi, prendre une échappée qui pourrait aller au bout et récupérer le maillot jaune. Parce que Pogacar, il va pas vouloir garder son maillot jaune jusqu'à Paris. Il va sûrement le laisser à un moment donné. Peut-être qu'il le récupérera même au chrono. Pogacar, on ne sait pas. Mais Romain, il ne le récupérera pas sur le chrono, par contre. Donc, oui, s'il ne termine pas trop loin à Valoire, peut-être que mercredi ou jeudi, si les sprinteurs cadenassent pas, pourrait se glisser dans une échappée et récupérer le maillot jaune.
Pourquoi attendre demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Il faut le faire dès le Galibier. Tu ne sais pas ce qui peut se passer.
Mais est-ce qu'ils vont le laisser partir? C'est ça. Je dis, s'il prend 4-5 minutes, allez, 3-4 minutes à Valoire,
oui,
il aura un bon de sortie.
Oui, c'est peut-être pas Pogacar ou Vingegaard qui vont réagir. Mais voilà. Effectivement, les autres, les Evenepoel, les Roglic, en tous les cas, leur formation. Après, sans doute, dans le chrono, il va prendre un coup dans l'aile.
Là, il va prendre cher.
Un coup dans l'aile. En revanche, en rétrogradant au classement général, sur l'étape du Lioran, il peut peut-être envisager...
Mais il n'a peut-être pas besoin d'essayer de perdre du temps. Il va le perdre naturellement contre la montre.
Non, mais sans
donc, autant qu'il s'accroche...
En s'accrochant.
Mais je pense, par rapport à ce que tu disais,
Cyril... Autant qu'il s'accroche à Valoire et qu'il reste à la limite dans le classement... Mais même si c'est à une minute ou une minute trente, et puis sur le contre-la-montre, réglera le problème.
Par rapport à ton inquiétude, ou en tout cas ton questionnement sur quel état d'esprit il va avoir, moi je pense qu'il va repartir sur son état d'esprit du début de tour, c'est-à-dire du plaisir, être naturel et pouvoir, pourquoi
pas
se relancer dans...
Il a des tauliers aussi. Hein.
C'est lui le taulier?
Non.
Romain Bardet donc qui se retrouve un peu plus loin au classement général. On va vous donner les résultats complets du classement général dans quelques instants. C'est l'After Tour, évidemment, comme tous les soirs sur RMC, à télécharger à partir de 20h sur toutes les bonnes plateformes, et donc en direct sur la radio numérique 100% en route. À tout de suite.
RMC, l'After Tour.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Ah, le patron, c'est les rois.
Lidl ?
Ah oui, les rois de la bicyclette cet été sur les routes de France.
Mais comment ça ? Tu dérailles ?
Oh non, patron, ça roule. Lidl est co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
Quoi ? Lidl co-sponsor de l'équipe Lidl Trek ? Où j'en perds les pédales ?
Ah ça, question sponsoring, ils en connaissent un rayon.
Là, t'as intérêt à mettre la pédale douce, hein. T'es mal, hein. Et tu l'auras pas, Béo. Volé.
Lidl, co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
L'After Tour, c'est votre rendez-vous quotidien pour le débrief de l'étape du Tour de France. Aujourd'hui, c'était la deuxième, donc toujours en Italie, entre Cesenatico et Bologna. demain, troisième et dernière étape italienne. Il y aura quand même un départ après-demain de Pinerolo et ensuite on franchira la frontière. Alors on va rappeler les résultats. On a évoqué la victoire de Kevin Vauclin. On a évoqué également la perte de maillot jaune de Romain Bardet. On va être complet avec toi, Pierre-Yves, avec tous les classements de cette deuxième étape.
On commence par l'étape. Oui, c'est un Français qui gagne, hein, donc faisons-nous plaisir. Kevin Vauclin, donc premier devant Abrahamsen, qui se bat terriblement, lui, pour le maillot à poids. Et on a même cru à un moment qu'il serait capable d'aller chercher aussi la victoire d'étape. Quentin Paché termine troisième, l'autre Français. Christian Rodriguez, Terada, Oliveira, Axel Laurence, le troisième Français de cette échappée, termine septième. Et puis derrière, Tennyson, Hull. Et puis le groupe des leaders qui est arrivé avec Carapaz, qui termine dixième de cette étape. Au classement général, c'est Tadej Pogacar qui est en tête avec Evenepoel, Vingegaard et Carapaz dans la même seconde. C'est-à-dire que demain, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, des changements sur le placement en fait et le classement. Donc on surveillera ça attentivement pour le maillot jaune. Romain Bardet est cinquième à 6 secondes. Puis viennent Van Gils, Bernal, Bilbao, Pitcock, Ciccone et tous les autres, ou quasiment, à 21 secondes. Et si on jette un petit coup d'œil sur les autres classements, du côté du maillot vert, c'est Abrahamsen. Du côté du grimpeur, c'est Abrahamsen également, puisqu'il est allé prendre aussi les points sur le sprint. Et puis, le meilleur jeune est dorénavant, avec son maillot blanc, Remco Evenepoel.
Voilà, alors on va parler de tous les leaders, évidemment, à commencer par le leader, celui qui portera le maillot jaune demain sur les routes du Tour, Tadej Pogacar, qui ne l'avait plus porté depuis le Tour 2022 et cette étape du Granon, rappelez-vous, où la Visma, enfin c'était pas la Visma, c'était la Jumbo à l'époque, avait déclenché les grandes manœuvres et avait fait exploser Tadej Pogacar. L'année dernière, il ne l'a jamais porté et donc le revoilà à nouveau en jaune.
Et il ne le voulait pas.
Quoi, il ne le voulait pas l'année dernière ?
Non, aujourd'hui.
Aujourd'hui, il ne le voulait pas, le maillot.
Ah, il ne le voulait pas ?
Non, vous n'avez pas vu la petite vidéo rapidement qui circule où il dit à Pogacar, à Evenepoel, quand je t'ai vu arriver, je me suis relevé pour avoir une petite cassure d'une seconde pour pas prendre le maillot jaune. Donc, il ne le voulait pas.
Il a dû vexer Remco, quand même.
C'est pour ça que demain, il faudra être attentif sur la place dans le sprint. Alors,
Cyril, avec le micro.
J'ai fait un petit calcul. Poggi est actuellement, parce que vous savez, c'est les places qui s'additionnent pour faire, dans le cas de coureurs qui sont dans le même temps. Donc vous avez Poggi, il a 18 points, 4e et 14e. Evenepoel, il a 20 points. Vingegaard, 29. Et Carapaz,
donc le but, c'est d'en avoir le moins
32.
Possible.
Hein.
Ça se joue à deux places, quoi.
Ça va être là, demain, si Evenepoel veut prendre le maillot... Il n'y a que deux places d'écart.
Ah, c'est étonnant, ça.
Ouais, mais est-ce que Evenepoel a intérêt à prendre le maillot ? Il n'a pas non plus une équipe très solide. Peut-être Carapaz, par contre.
Mais le problème, c'est que Carapaz, il est à 14 points.
Ouais, mais bon, sprint massif, si.
Non, mais
sprint massif,
il va
être intéressant.
Il va y avoir des coups de frein dans le sprint pour pas arriver trop loin.
Demain, il va falloir compter. Alors, 14e, 17e, 26e. Alors, il y a des comptes à petit cœur.
Evenepoel, c'est 2 points. Pogacar, c'est 11. Vingegaard, c'est 11.
Ouais, c'est... Juste un petit mot par rapport à tout ça. Tadej Pogacar, quand même, il est toujours dans le top 10 du classement général sur le Tour de France depuis le jour où il a pris la cassure à Lavore en 2020, l'année où il gagne. Depuis, il a quand même toujours été dans le top 10 du Tour de France. C'est absolument.
C'est-à-dire même sur une première étape.
Oui. Ah ouais. Toujours. L'an passé, il était.
Ah, c'est un mec qui ne sait pas perdre, qui déteste perdre. Quoi.
C'est incroyable. Incroyable.
Il veut toujours être le premier partout et il a les qualités pour être le premier partout. On va l'écouter justement, Tadej Pogacar, donc nouveau maillot jaune de ce Tour de France. Lui qui, on le rappelle, lors du Giro, s'était emparé du maillot rose dès la deuxième étape et l'avait amené jusqu'au bout du Tour d'Italie. On le disait tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait le même plateau cette année. Tadej Pogacar.
Today, when Brekalo went. Yeah,
aujourd'hui, quand l'échappée est partie, c'est dit qu'ils avaient une bonne chance de gagner. Et puis dans le circuit final, je me suis senti très bien. Voilà, la première fois dans San Luca. Et la seconde fois, j'ai décidé d'essayer pour me tester un petit peu. Vous testez vous et puis testez les autres. Mais Jonas était là. C'est une première réponse pour vous, il est là. Il était très rapide aujourd'hui.
no surprise for me.
Je suis pas surpris.
We rolled through to the finish together.
Donc on a roulé ensemble. Et puis Remco et Carapaz sont arrivés tardard et on a fini ensemble. Quelle était l'atmosphère dans San Luca? C'était fou.
On the whole circuit in Bologna
and dans tout le circuit à Bologne et dans la montée, really c'était vraiment incroyable. C'est le vélo que vous aimez.
I think it's cycling we should all love.
Je pense que c'est le vélo qu'on aime tous. Le maillot est sur vos épaules pour un long moment.
Let's take it day by day and stick to
on verra. Regardons jour par jour et restons collés au plan original, justement. Donc,
le plan original, quel est-il? Quel est-il le plan original? En tous les cas, c'est vrai qu'on l'annonçait, on savait que lors de ses deux premières étapes, il tenterait de tester Vingegaard. Il ne l'a pas fait hier. Il a attendu longtemps aujourd'hui, Jérôme, quand même, avant de tester Vingy.
Bah pour moi, aujourd'hui, c'est 1 Vingegaard, 0 Pogacar. Le perdant de la journée, ce n'est pas Pogacar qui a pris le maillot jaune, c'est Vingegaard. Parce qu'on est sur le terrain de Pogacar. Il a essayé, et ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il n'a pas essayé dans la partie raide de San Luca. Donc, il est dans la partie un petit peu moins raide sur la fin, où tu ne prends pas trop de risques au cas où. Donc, s'il était vraiment si bien que ça, il aurait attaqué, à mon avis, plus tôt. Et ce n'est pas une montée qui convient parfaitement à Vingegaard. Il est resté collé avec lui. Donc, pour moi, il est maillot jaune, mais il n'est pas gagnant de la journée.
Intéressant, intéressant. Cyril, tu partages l'analyse de Jérôme ?
Oui, à 80%. Je pense que, d'un autre côté, il savait pertinemment que en aucun cas il prendrait 25 secondes à
non, mais au moins le décoller, au moins le décoller de la route.
Oui, peut-être, mais après
il, que normalement il était moribond à Vingegaard hein, il y a 15 jours.
Oui,
hein.
Ça c'est un autre sujet ça. Mais ouais. Je pense que compte tenu des 13 km qu'il y avait au sommet pour aller jusqu'à l'arrivée, c'était pas jouable. C'était jouable sur une offensive sur la première montée. Où là, tu pouvais faire sauter et se retrouver avec des petits groupes. Là, il n'avait aucune chance. Là où il a attaqué, il n'avait aucune chance de partir seul et d'aller jusqu'à l'arrivée.
Mais c'est vrai qu'il a tardé à attaquer. On se posait la question de savoir s'il était vraiment si en forme que ça. On rappelle qu'il nous a annoncé en conférence de presse deux jours du départ qu'il avait été touché par le Covid. Peut-être n'a-t-il pas encore tout à fait récupéré ses jambes du Giro. On verra ça dans les jours à venir. De toute façon, seul l'avenir nous le dira.
Mais en tout cas, il y a des indices. C'est vrai qu'on se demande pourquoi finalement il n'a pas testé ce qu'il voulait faire puisqu'il l'a fait sur la deuxième fois. Pourquoi il ne l'a pas fait sur le premier passage de San Luca?
Et puis il a une équipe de Galactique qu'on n'a pas trop vu aujourd'hui quand même. Alors San Luca, mais après, alors ok, San Luca, l'approche est spéciale, c'est comme une classique, il faut arriver à se placer. On sait qu'Almeida, ce n'est pas le meilleur frotteur du peloton par exemple, mais voilà, on ne les a quand même pas trop vus, Ayuso, Almeida, ils étaient là, bien sûr, ils n'ont pas été lâchés au premier passage, mais ils n'ont jamais vraiment pris la course en main, à part avec Yates, quoi. Et puis alors c'est même tarif pour Vingegaard, ils ont Benoît qui a roulé et puis il y avait Jorgensen, mais les équipes ne sont pas, voilà, ils ont eu la chute aussi, et voilà, et pour l'instant l'équipe de Poggi qu'on annonce stratosphérique, on ne l'a pas trop vu pour le moment.
Juste un truc Jérôme, sachant que Tadej Pogacar visiblement ne voulait pas le jaune, quel intérêt il aurait eu à attaquer, à se mettre à fond alors qu'il n'y avait même pas de bonus à aller chercher?
Aurait pu essayer de tester pour savoir si Vingegaard allait répondre à son attaque et ensuite.
Non, mais il y aurait eu, je sais pas moi, les 8 secondes de bonus à aller chercher en haut et les 10 secondes de bonus à l'arrivée. Peut-être que ça aurait été différent.
N'oubliez pas que l'an dernier, c'est ce qu'il a fait. Après, il s'est pris une claque.
Oui.
Ouais, il a peut-être décidé d'y aller un peu plus mollo sur ce Tour de France. Oui. Vingegaard, c'est donc là. Alors, je ne sais pas si on peut parler de surprise, je ne sais pas si on peut parler de bonne nouvelle, pas pour Pogacar en tout cas. Tu me le rappelais tout à l'heure, Cyril, dans le direct. Il est là, le Danois. On rappelle ses blessures, 12 semaines seulement après, il est au sommet du Tour de France. Alors, comment expliquez-vous cette histoire-là? Il y a certains qui avaient des théories, je me rappelle de Jérôme Pinault qui me disait, mais a-t-il été aussi sérieusement blessé que la formation Visma Elizabeth l'a laissé entendre?
Moi, je vois...
C'est quand même surnaturel, quoi.
Ouais, alors je veux bien que les cyclistes, les managers et tout ce qu'on veut soient des menteurs. Je vois mal quand même une équipe amplifiée à ce point des blessures. On l'a quand même vu partir en civière avec un masque à oxygène, etc. J'ai quand même du mal à me dire que c'était pas si grave que ce qu'ils nous ont dit. Par contre, il a certainement repris le vélo plus vite que ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit il a repris le vélo, mais est-ce que c'était en extérieur, est-ce que c'était home trainer, on ne sait pas trop. En tout cas, moi je suis bluffé, je ne pensais pas du tout qu'il serait à ce niveau-là. On aura quand même, ça reste des bosses assez courtes hein, qu'on a jusqu'à maintenant, on va attendre de voir valoir ce que ça donne avec l'altitude, avec le galibier, etc. On ne va pas tirer des conclusions définitives tout de suite, mais en tout cas, ça balaye un peu des doutes qu'on avait sur l'état de forme de Vingegaard.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Tour de France.
Et pareil pour Van Aert, hein, d'ailleurs, parce que Van Aert, aujourd'hui, il tombe, mais il lâche quand même dans la première montée de San Luca alors qu'il a roulé. Par rapport à Van Der Poel, par exemple, qui ont un peu le même profil, il a lâché bien avant. Donc lui aussi, il n'a pas trop couru, Van Aert, mais la préparation a été très bonne du côté de Visma Liseberg.
Et c'est intéressant de voir le retour d'Evenepoel et de Carapaz aussi, parce qu'on se dit que finalement, bien, peut-être que le niveau est plus équilibré que ce qu'on pouvait penser.
Et Evenepoel, attention, il était très mal placé au pied de San Luca. Très, très mal placé. Il a dû boucher un trou et il revient, si on peut revoir les images ce soir.
Il fait une erreur de placement.
Ouais, il fait une erreur de placement. Il revient au moment où Pogacar met son coup de pétard. Donc, il marche pas si mal que ça, Evenepoel. Il a dit qu'il a perdu 2,5 kg depuis le Dauphiné, que ça va un peu mieux en montée.
C'est sûr. Que
pour... Tu devrais essayer, Christophe.
Ouais, mais bon, j'ai pas de montée.
Alors que Abrahamsen a pris 20 kilos.
La montée, les escaliers du camion RMC, je n'ai pas d'autre montée à faire durant ce Tour de France.
Non, mais Christophe pourrait perdre 2,5 kg.
Non.
Mais il faudrait qu'il ait comme manager le fait vert.
Ouais. Non. Cyril Guimard, je perdrais 10 kilos avec lui. Il me martyriserait. Tiens, écoutons Remco Evenepoel, leader du maillot blanc, classement des jeunes. Et oui, parce qu'il est encore parmi les jeunes, Remco.
Oui, oui, on a bien terminé. J'avais un peu un moment difficile avant, enfin, au moment que Tadej l'attaquait. Car j'ai dû fermer un petit trou dans le groupe pour y avait une cassure à environ 1 km du sommet et puis j'ai dû sauter de groupe 2 à groupe 1, ce qui m'a coûté un peu d'énergie au moment que Tadej l'a attaqué, donc j'ai dû respirer un petit peu et essayer de retrouver un petit peu d'oxygène dans les jambes et puis quelques secondes après j'ai pu accélérer, mais en ce moment là il y avait déjà un écart de 10-15 secondes et puis heureusement dans la descente et sur le plat on est revenu, donc ouais, je pense qu'à la fin de la journée, c'était c'est positif. Et je reste avec les deux favoris, les deux grands favoris. Et les autres, ils sont 20 secondes derrière. Donc pour ma part, c'était une finale, une bonne finale en fait.
Vous n'avez pas été surpris, la fête sur le Giro au final, attaquer très tôt pour pouvoir gérer et pas être en réaction à chaque fois. Tadej.
Oui. J'avais déjà un feeling ce matin qu'il allait attaquer parce que c'est quand même... je trouve que c'est sa montée et il la gère hyper bien déjà depuis quelques années, donc c'est clair qu'il connaît la bosse par cœur et on l'a vu aujourd'hui au moment que la bosse, la partie raide, elle termine en fait, il a attaqué, donc c'est clair qu'il avait une idée aujourd'hui pour attaquer et du coup il n'y a que Jonas qui a pu réagir et puis moi et Richard on est revenus un peu plus tard, mais c'est clair qu'il y a déjà un peu de masques qui sont tombés aujourd'hui.
Voilà, Remco Evenepoel, maillot blanc. Bonne analyse de la course.
J'aime bien le ton de sa voix.
Ouais. Tu sens qu'il est rassuré quand même, hein, parce que c'est son premier tour. C'est qu'il a un gros ego comme tous les grands champions. Il n'avait pas été invité à la conférence de presse des grands leaders du Tour de France. Il n'y avait que Roglic.
Si.
Ah, il y était
à la... Tu parles de Florence ?
Ouais.
Oui, il y était.
Ah bon ?
Absolument.
Parce qu'on m'avait dit qu'il était prévu.
Il était. C'est juste qu'il était à un autre horaire, mais.
D'accord.
Mais il y était. Il était avec Mathieu Van Der Poel.
Ok. Ah bon.
Par contre, il dit à la fin des masques sont tombés. Je pense que chez Red Bull Bora, ils vont se gratter un peu la tête parce que même si Roglic n'a pas perdu beaucoup de temps, finalement, il est à 20 secondes. Ils ont fait relever Vlasov qui, lui, je pense, aurait pu suivre Evenepoel et Carapaz pour attendre Roglic. Et puis Vlasov. Ouais.
Soi-disant, il la connaissait bien, cette montée.
C'est pour ça. C'est ça qui est un peu inquiétant, justement. Et puis Vlasov, il va pas attendre 3-4 étapes à chaque fois à Roglic. À un moment, il aura aussi ses ambitions personnelles. Ils ont quand même 2-3 leaders dans cette équipe. Faut voir comment il se refait un peu la cerise Roglic. Mais sur une montée qu'il connaît parfaitement et qui lui convient très bien, il a quand même pas pu répondre. Et puis il était même pas à l'avant du groupe, quoi.
Très bien. Demain, nous repartons dans la plaine. Alors on n'a pas le temps, je sais que tu avais préparé un papier.
J'avais un papier,
avec un lyrisme total.
Deux pages recto verso sur les sables demain. C'est dommage.
Attends, mais en plus tu prends ma moto demain.
Ouais, je prends ta moto. Oh là là. Mais je prends ton oreiller aussi, je pense.
Ah. Combien de kilomètres là ? 230 là.
230 km pendant que Arnaud va se reposer demain, Jérôme va nous faire... Demain c'est quasiment intégral Coppel, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah oui, c'est le mieux. De toute façon, on prend une journée de repos.
De toute façon, vu ce que vous avez à dire à l'antenne, je pense que ça serait mieux que je garde l'antenne tout le long.
Eh ben, parlera de la Juve.
Nos pauvres auditeurs. Quel calvaire pour eux. Merci Jérôme, Cyril, Arnaud et Pierre-Yves. Donc Arnaud, on te retrouve après-demain. Et les autres, c'est demain à 14h pour le direct. Et puis dès midi sur la radio 100% route avec l'autre équipe, évidemment, emmenée par Jérôme Pinault et tous ses camarades. Bonne soirée, à demain sur RMC.
Retrouvez l'After Tour tous les jours pendant le Tour de France
de 19h à 20h sur RMC.
Toutes les énergies du sport nous rassemblent. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.